VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 26 avril 2017, en direct de Washington. Idrissa Seloudia et Arnold Butson pour commencer les titres.
La CEDEAO va commencer à retirer vendredi l'Ecomib, sa force en Guinée-Bissau.
Au Nigeria, le médecin personnel de l'ancien président Goodluck Jonathan, poursuivi pour, entre autres, blanchiment d'argent.
Nouvel appel des États-Unis à un embargo sur les armes à destination du Soudan du Sud.
Nouveau revers pour le président Donald Trump et sa politique migratoire, cette fois-ci sur les villes sanctuaires.
Et puis le président Trump a imposé au Canada des taxes sur le bois de construction et menacé de prendre des mesures de représailles dans le secteur laitier.
Et ne manquez pas le reportage de Nicolas Pinault, l'envoyé spécial de VOA Afrique au Niger. Notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest va entamer vendredi le retrait de sa force en Guinée-Bissau, l'Ecomib. C'est ce qui ressort d'un communiqué de la CEDEAO publié hier à l'issue d'une visite de ses responsables à Bissau. L'Ecomib avait été déployé en mai 2012 après un coup d'état militaire le 12 avril 2012 dans le but d'aider à sécuriser le processus de transition politique.
Au Mali, les autorités, de concert avec certains de leurs partenaires, s'évertuent près de Tombouctou à faciliter la réinsertion sociale des rapatriés volontaires. Ils vivaient ces rapatriés dans le camp de Meira en Mauritanie depuis l'éclatement de la crise malienne en 2012. Précision de notre correspondant Kassim Traoré.
C'est de façon volontaire que ces 296 personnes ont décidé de revenir au Bercail. C'est dans ce contexte qu'une mission initiée par le gouverneur de la région de Tombouctou, en coordination avec la nouvelle autorité intérimaire, s'est rendue à TRD dans la commune de Ber, à 45 km de Tombouctou. Boubacar Ould Amadi, président des autorités intérimaires de Tombouctou.
Nous sommes partis accueillir ces réfugiés pour les réconforter, pour les rassurer et en même temps, pour savoir les besoins. Nous avons essayé de visiter tout le monde et comment nous allons accompagner l'installation de ce centre mélange.
Pour faciliter ces retours volontaires, la mission a été sécurisée par les FAMA, la CMA et la MINUSMA. Près de 14 millions de francs CFA ont été apportés en assistance pour le développement social.
Pour créer les conditions de retour, notamment la réhabilitation des sites, c'est-à-dire les points d'eau, les centres de santé, les écoles.
Les HCR s'apprêtent à donner 60 000 francs CFA par adulte et 20 000 francs par enfant à chaque revenant. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
L'agence anticorruption du Nigeria dit avoir engagé des poursuites judiciaires contre le médecin personnel de l'ancien président Goodluck Jonathan. Des détails avec Eddie Isango.
La Commission pour les crimes économiques et financiers assigne à comparaître les docteurs Fortunat Fibéré-Messima, ancien directeur du centre médical d'État, sur 6 chefs d'accusation dans une affaire de blanchiment d'argent, précise dans un communiqué Wilson Ouhou-Jaren, porte-parole de la Commission. Médecin personnel de l'ex-président Jonathan en 2012, le docteur Fibéré-Messima aurait profité de sa position pour attribuer des contrats lui profitant personnellement. Selon les documents cités dans les communiqués, il aurait notamment attribué un terrain d'une valeur de 250 millions de naira, l'équivalent des 775 000 euros, à une société dont il était le directeur exécutif. Le docteur Fortunat Fibéré-Messima a plaidé non coupable sur tous les chefs d'accusation en son encontre. Libéré sous caution, il attend la reprise de son procès le 6 juin. Le président Muhammadu Buhari avait battu campagne en promettant une lutte acharnée contre la corruption s'il était élu. Ses détracteurs l'accusent d'instrumentaliser la lutte contre la corruption à des fins politiques contre les proches de son prédécesseur et les membres de l'ancien parti au pouvoir.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait se prononcer demain sur une résolution concernant le Sahara occidental. Elle vise, cette résolution, à appuyer une initiative onusienne pour relancer les pourparlers dans le conflit qui secoue le Sahara occidental depuis plusieurs décennies, selon des diplomates. Mais la Russie et l'Uruguay ont estimé que le projet de résolution était très déséquilibré dans la façon dont il traite le Polisario. On demanderait au mouvement indépendantiste de retirer immédiatement ses combattants de la zone tampon de Guerguera après le retrait des troupes marocaines en février.
Nouvel appel des États-Unis à un embargo sur les armes à destination du Soudan du Sud. La Chine et la Russie ont réitéré leur opposition à cette idée. Précision de Michel Joseph.
S'exprimant mardi au Conseil de sécurité de l'ONU, l'ambassadrice américaine Nikki Haley a exhorté les pays membres à imposer de nouvelles sanctions aux dirigeants sud-soudanais, notamment un embargo sur les armes. 5,5 millions de personnes, soit la moitié de la population sud-soudanaise, mourront de famine si rien n'est fait, a-t-elle averti. Les demandes du Conseil pour un cessez-le-feu, l'accès des travailleurs humanitaires et la reprise des négociations sont restées lettres mortes, a déploré Mme Haley. Nous ne devons pas attendre d'autres morts, d'autres déplacements de population et d'autres destructions avant d'avoir le courage d'agir, a plaidé la représentante américaine à l'ONU. La Russie s'est opposée une nouvelle fois à cet appel aux sanctions. La paix au Soudan du Sud ne sera pas instaurée par un embargo du Conseil de sécurité sur les armes, mais par des mesures ciblées de désarmement des civils, de démobilisation et de réintégration des combattants, a fait savoir l'ambassadeur adjoint russe Peter Ilyichev. Abondant dans le même sens, l'ambassadeur adjoint chinois à l'ONU, Wu Haitao, a dit de son côté qu'il est important pour le Conseil d'envoyer des messages plus positifs et plus enthousiastes.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un juge américain a en grande partie suspendu hier l'application d'un décret du président Trump visant à priver de financements fédéraux les collectivités opposées à sa politique migratoire. Les précisions avec Jean-Roger Bion.
Le juge William Orrick de la Cour fédérale de San Francisco a pris cette injonction temporaire de portée nationale en considérant que les arguments d'avocats représentant San Francisco et le comté californien de Santa Clara avaient des mérites. Le débat sur le fond aura lieu ultérieurement. D'après le magistrat, la question principale reste les déclarations répétées de M. Trump, selon lesquelles le financement est une arme à utiliser contre les villes qui résistent à ces politiques et montrent que l'intention du gouvernement fédéral est anticonstitutionnelle. La décision du juge pourrait avoir un impact sur plus de 300 villes et comtés à travers le pays. Les villes sanctuaires comme Los Angeles, New York, Chicago ou Philadelphie affirment que pousser encore davantage dans la clandestinité des étrangers entrés illégalement a des effets néfastes, ces personnes n'osant plus contacter la police, notamment pour signaler des crimes. Le gouvernement central est, lui, irrité par les autorités locales qui refusent de livrer à la police aux frontières en vue de leur expulsion des étrangers tout juste interpellés ou qui ont purgé une peine dans une prison d'État.
Michael Flynn, l'ancien conseiller à la sécurité nationale du président Donald Trump, n'a jamais fait mention de sommes d'argent reçues d'entreprises russes dans sa demande d'accréditation de sécurité début 2016. C'est du moins ce qu'a affirmé hier un parlementaire, précision de John Lindon.
Selon Jason Chaffet, élu républicain à la Chambre des représentants, il semble que M. Flynn se soit mis en infraction en omettant de mentionner sur sa demande de renouvellement de son accréditation de sécurité début 2016 ses paiements effectués notamment par la chaîne de télévision russe Russia Today, proche du Kremlin. M. Flynn a été payé plus de $33,000 pour assister au gala de la chaîne RT en décembre 2015, où il était assis à la table du président russe Vladimir Poutine. M. Chaffet, président républicain de la Commission parlementaire de surveillance de l'action gouvernementale, a noté que Michael Flynn n'avait pas les autorisations nécessaires pour assister à ce gala et qu'en outre, il n'avait pas déclaré l'argent touché sur sa demande d'accréditation remplie le mois suivant. Michael Flynn a par ailleurs obtenu des fonds de près de $22,000 d'autres sociétés russes. Il a nié toute fraude. Pour le député démocrate Elijah Cummings, vice-président de cette même commission parlementaire, ces omissions s'assimilent à des délits punis de peines allant jusqu'à 5 ans de prison.
Le président Donald Trump a imposé au Canada, principal partenaire économique des États-Unis, des taxes sur le bois de construction et il a menacé de prendre des mesures de représailles dans le secteur laitier. Dans un entretien hier avec M. Trump, le premier ministre canadien Justin Trudeau a souligné que son gouvernement allait défendre vigoureusement les intérêts de l'industrie canadienne du bois de construction.
La Turquie a mené hier des raids aériens en Syrie et en Irak qui ont tué plus de 20 combattants des forces kurdes impliquées dans la lutte anti-djihadiste. Elles sont soutenues, ces forces, par Washington, mais Ankara les qualifie de terroristes. Les États-Unis, alliés de la Turquie, se sont dit profondément préoccupés par ces bombardements qui ont été menés sans coordination adéquate avec les États-Unis ou la coalition mise en place pour défaire le groupe État islamique, selon le département d'État. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Morgane Guériec.
L'Organisation internationale du cacao a inauguré mardi son siège à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de la fève. Cette installation de l'ICCO en Côte d'Ivoire intervient alors que l'économie cacaoyère est secouée par la chute des cours sur le marché mondial. La baisse conséquente des prix aux producteurs, souligne le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Le cacao a atteint vendredi à Londres 1372 livres sterling la tonne, au plus bas depuis début 2012. Contrairement au café, le cacao souffre d'une offre trop abondante par rapport à la demande morose. Control Risks a publié sa carte annuelle des risques qui pèsent sur les entreprises à travers le monde. La Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad, la Côte d'Ivoire, la RDC, le Rwanda et le Burundi figurent parmi les pays aux risques sécuritaires élevés. La RCA, elle, est classée dans les pays à risque sécuritaire extrême, aux côtés du Burundi, rapporte l'agence Ecofin. Et Nigeria, malgré la crise, les revenus internes du gouvernement de l'État de Lagos ont augmenté de 9%. En 2016, il a généré un total de 436,3 milliards de naira. Le gouvernement a mobilisé 7 milliards de naira grâce à la taxe d'exploitation foncière versée par les propriétaires et utilisée par le gouvernement d'État pour développer des projets.
À présent, les sports avec Eric Manirakiza. Eric, bonjour.
Bonjour Idrissa.
En football, les demi-finales de la Coupe d'Allemagne, les deux poids lourds du football allemand s'affrontent ce soir.
C'est Dortmund et Bayern. La claque des deux rivaux en Ligue des Champions a laissé un goût amer. Le club bavarois doit gagner ce soir pour sauver la saison. Le vainqueur rencontrera en finale à Berlin le 27 mai le gagnant d'hier dans l'autre demi-finale. À vous de donner le nom Idrissa, puisque vous avez suivi ce match.
Francfort s'est qualifié mardi pour la finale de la Coupe d'Allemagne en s'imposant à Mönchengladbach au tir au but 7-6 après un match nul, un but partout. Et puis Eric, au championnat d'Angleterre, ce soir se jouent des matchs de retard.
À 18h45, temps universel, Arsenal tente un comeback à domicile dans la course à l'Europe face à Leicester. À 19h, temps universel, à Crystal Palace, Tottenham va tenter de continuer à grignoter son retard sur le leader Chelsea. Et enfin, les deux Manchester qui devancent Arsenal s'affrontent jeudi dans leur derby.
Et Newcastle retrouve la Première Ligue.
Tout à fait, Idrissa. Après leur victoire de 4-1 contre Preston lundi, Paris réussit pour Rafael Benitez, l'entraîneur de Newcastle qui était resté aux manettes du club après sa relégation en deuxième division en fin de saison dernière. Entraîneur du Liverpool héroïque lors de la finale de Ligue des Champions 2005 face à l'AS Milan, Rafael Benitez avait reçu des moyens conséquents pour assurer à Newcastle un retour dans l'élite un an après l'avoir quitté. Il a aussi fait son passage au Real Madrid et à Chelsea.
L'ex-patron du football croate à la barre pour détournement présumé.
C'est Zdravko Mamic, l'ancien patron du Dynamo Zagreb, longtemps considéré comme l'homme fort du football croate. Il comparaîtra demain devant un tribunal pour de présumés transferts frauduleux concernant surtout la vedette du Real Madrid, Luka Modric, et l'ancien Lyonnais, aujourd'hui à Liverpool, Deran Lovren. L'affaire porterait sur des millions d'euros. Avec vous, Idrissa, les résultats des playoffs en NBA.
Oklahoma City a été éliminé des playoffs par Houston. 105-99, Memphis a été battu par San Antonio, 116-103. Et Utah a battu Los Angeles Clippers, 96-92.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Niger, la région de Diffa préoccupe toujours les humanitaires avec de nombreux défis à relever suite à l'insurrection de Boko Haram qui sévit depuis plusieurs années des deux côtés de la frontière avec le Nigeria. L'envoyé spécial de VOA Afrique au Niger, Nicolas Pino, a tendu son micro à ceux qui vivent dans les camps de Diffa. Voici son reportage.
À quelques kilomètres de Diffa, le long de la route nationale 1, se dressent les camps d'Assaga. À droite, les déplacés nigériens. À gauche, les réfugiés nigérians. À Saga, ce sont deux villages qui portent le même nom dans chaque pays de part et d'autre de la Komadougou Yobe. Cela fait plus de 2 ans que Madame Boukar a fui le Nigeria, un soir après une attaque de Boko Haram qui a coûté la vie à 12 personnes dans son village.
On manque de nourriture. On n'a reçu aucune distribution depuis 4 mois. On a faim. On doit se débrouiller. Il y a aussi les tentes qui sont vieillissantes. On a demandé de nouvelles tentes, mais un tiers seulement en a reçu.
Les adultes et les enfants ont faim dans Assaga. Les cas de malnutrition existent, comme l'explique cette mère de famille, Ajiakaka Haruna, à 40 ans. Elle s'inquiète pour son fils.
Si mon fils était rassasié, il irait jouer avec les autres enfants du village. Mais là, il est très fatigué. Au centre de santé, on ne m'a rien donné. Sinon, j'aurais pu préparer de la bouillie.
En traversant le goudron brûlant de la route nationale 1 à Assaga, Niger, site de déplacés, les complaintes sont les mêmes. Les habitants du camp se plaignent aussi de ne pouvoir exercer des activités.
Écoutons Oumara Gobo, il est le chef du camp d'Assaga, Niger.
Sur le plan sécuritaire, il n'y a pas de problème. Dieu merci. Là où le problème, ça existe encore, c'est au niveau de la vie de la communauté dans le cas. C'est pas la vie. Ici, la communauté, ils n'ont pas d'activité. Ils n'ont pas de quoi à faire. Ils s'adressent à l'État et les bailleurs de fonds.
Du côté des autorités nigériennes, on appelle les donateurs à respecter les engagements pris lors de la conférence d'Oslo. 14 pays avaient alors promis de verser 672 millions de dollars pour soutenir les pays du lac Tchad face aux conséquences humanitaires de Boko Haram.
Dandano Mahamadou Laouli est le gouverneur de la région de Diffa.
Nous étions à la conférence humanitaire d'Oslo. Nous avons fait un appel pour la région de Diffa et cet appel a été entendu. Et nous pensons que pour l'année 2017, si vraiment les gens respectent les engagements, nous n'aurons pas de problème.
Les agences humanitaires estiment que 300 000 personnes ont besoin d'assistance dans la région de Diffa, dont 100 000 réfugiés nigériens. Nicolas Pino, Diffa, VOA Afrique.
Merci Nicolas. Demain, nous retrouverons notre envoyé spécial depuis le lac Tchad.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Ici aux États-Unis, le militant anti-esclavagiste mauritanien Biram Dahabeid a reçu hier soir à New York le prix du magazine américain Time, qu'il a sélectionné parmi les personnalités les plus influentes du monde pour l'année 2017. Le leader de l'initiative de résurgence du mouvement abolitionniste, Ira Mauritani, pense que cette distinction donnera une plus grande visibilité à la lutte acharnée qu'il mène pour l'éradication de l'esclavage dans son pays. Timothée Donangmaï a joint Biram Dahabeid à New York.
Le mouvement anti-esclavagiste est devenu un mouvement de droit civique, un mouvement d'idées très fort. Les plus populaires, les plus mobilisateurs dans le pays est sujet à une répression de plus en plus accrue de la part du pouvoir parce que le régime en place n'a pas trouvé d'autre méthode pour juguler cette ascension fulgurante, naturelle, cette aspiration à la liberté de tant de membres de la population mauritanienne qu'à la répression systématique, l'emprisonnement, la torture, la violence indicible, l'interdiction. Je pense que cette situation va à la longue devenir invivable. Et je crains que l'aspiration très forte des populations d'ascendance servile et des populations noires, plus de 80% de la population mauritanienne, jointe à l'aspiration de la communauté arabo-berbère à plus de démocratie et de liberté. Et je pense qu'à la longue, si tout ses aspirations restent confinées par le refus du régime mauritanien et du dictateur Mohamed Abdelaziz, je pense que ça peut créer la déflagration.
Les autorités mauritaniennes ont pris un certain nombre de mesures en vue de bannir l'esclavage.
Non, les autorités mauritaniennes n'ont jamais pris de mesures pour bannir l'esclavage. Mais elles ont pris des mesures pour maintenir l'esclavage. Quelles sont ces mesures? C'est l'interdiction du mouvement anti-esclavagiste. C'est les procès intentés par les autorités mauritaniennes plusieurs fois par année depuis une dizaine d'années contre les militants anti-esclavagistes qui sont condamnés à des peines allant jusqu'à 15 ans de prison et qui sont torturés, qui sont pourchassés, qui sont poursuivis même dans leur possibilité de vivre en paix, dans leur possibilité de travailler, de gagner leur vie. Et je pense que avec les campagnes de diabolisation des militants anti-esclavagistes, des organisations anti-esclavagistes que le gouvernement a toujours mené, les excommunications religieuses, tout cela conjugué à la soustraction automatique à la loi anti-esclavagiste de tous les contrevenants à cette loi et leur protection, je pense que tout ça, ce sont des mesures qui visent à maintenir l'esclavage. Les lois qui sont édictées ou les conventions qui sont ratifiées ne sont pas destinées à l'application, ce ne sont pas des mesures visant à éradiquer l'esclavage, c'est des mesures visant à soigner l'image du gouvernement mauritanien face à la communauté internationale, face aux bailleurs de fonds internationaux, pas plus.
Behram Da Abeid, leader de l'initiative de résurgence du mouvement abolitionniste IRA Mauritanie, joint à New York. Au Burundi, le gouvernement a refusé l'entrée sur son territoire d'un convoi de 10 camions transportant de l'aide alimentaire du PAM en provenance de Kigali, capitale du Rwanda. Bujumbura invoque des raisons sécuritaires, Eric Manirakiza.
L'aide bloquée est destinée à 100 000 personnes, dont des réfugiés congolais au Burundi et à des Burundais en situation de malnutrition. Selon Nicole Jacquet, directrice adjointe du PAM au Burundi, les camions étaient stationnés depuis vendredi à la frontière de Gisenyi, dans le nord du Burundi. Les formalités douanières n'ont posé aucune difficulté, mais c'est au moment de franchir la frontière que la police burundaise s'est interposée.
Les vivres, donc les camions contenant 300 tonnes, puisque 500 tonnes au total, mais 300 tonnes qui sont arrivées vendredi à la frontière, à Gisenyi. Les formalités douanières ont été faites et la police ensuite n'a pas fait passer le convoi de 10 camions. Mais quand le samedi, les camions étaient toujours à la frontière, bon, j'ai commencé à appeler la police, le ministère de l'Intérieur, etc. Et là, on nous a dit qu'il y avait un problème de sécurité.
Quel problème sécuritaire bloque l'acheminement par l'OPAM des vivres en provenance de son centre d'achat de Kigali? Pierre Moulikié est le porte-parole de la police à Bujumbura.
Vous savez que depuis 2015, il y a une insécurité qui a été perpétrée dans notre pays en provenance d'origine rwandaise pour tuer les leaders ici ou alors commettre des crimes. Maintenant, tout le monde sait que le mal sécuritaire vient de là-bas. Et donc, si aujourd'hui il y a des objets ou des personnes qui proviennent de cet endroit-là, eh bien, on doit prendre toutes les mesures et tous les pays ont le droit de protéger leur territoire contre toutes sources de criminalité extérieure.
Fin de non recevoir donc, le PAM a été obligé de renvoyer son convoi sur Kigali. Nicole Jacquet regrette cette décision des autorités burundaises qui, dit-elle, complique le transport de l'aide via Kigali.
Lorsqu'un pays nous dit qu'il y a un problème de sécurité, si vous voulez, le PAM, c'est le premier à ne pas vouloir risquer, mettre en péril la cargaison, mettre en péril les chauffeurs, mettre en péril les camions. Nous avons donc décidé de faire les demandes de réexportation pour que ces camions retournent dans la centrale d'achat de Kigali. Ce qui nous interpelle, c'est que le corridor du Nord pour le Burundi, c'est le corridor le plus important parce que c'est par là que peuvent entrer les camions du Kenya, d'Ouganda, alors que le corridor du Centre, c'est surtout pour les produits qui viennent de Tanzanie.
Depuis 2 ans, le Burundi et le Rwanda entretiennent des relations tendues liées à la contestation du 3e mandat du président burundais. Bujumbura accuse Kigali de soutenir l'opposition, Cependant, le pays connaît une précarité alimentaire extrême et l'OPAM, ne pouvant pas acheter localement les produits alimentaires, il doit s'approvisionner en Ouganda, au Kenya et au Rwanda. La fermeture du corridor nord ne fait qu'empirer la situation.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Pour terminer, un sujet délicat et douloureux, je veux parler, osons le dire, des hémorroïdes. De nombreuses personnes en souffrent, mais peu en parlent. Et en Côte d'Ivoire, où cette maladie est considérée comme gênante et honteuse, les malades optent pour la médecine traditionnelle, nous dit notre correspondante à Abidjan, Narita Namasté.
Les hémorroïdes sont des veines dilatées qui se forment dans l'anus ou le rectum. Mais contrairement aux veines normales, les hémorroïdes restent dilatées en permanence. En Côte d'Ivoire, une personne sur deux souffre d'hémorroïdes.
On a, je vais sans dire, l'alimentation chez nous ici peut être cause, puisqu'on a notre alimentation à base de féculents. Et puis, il peut y avoir d'autres pathologies. Par exemple, chez un homme, les maladies prostatiques qui entraînent des poussées, la constipation, tous les efforts de poussée peuvent faire que ces veines se dilatent. Et ces veines, quand ça se dilate, ça donne cette maladie vasculaire.
Selon Dr Touré Draman, tout problème dans l'anus ne doit pas être prêt pour l'hémorroïde.
C'est pas seulement la maladie hémorroïdaire seulement qui est là. On peut même avoir des tumeurs cancéreuses.
Les hémorroïdes sont une affection qui passe sous silence en raison de leur localisation, mais elles se guérissent.
Le traitement est bien codifié. Il y a un traitement médical qui marche bien, mais il faut que ce soit vu tôt. Mais sinon, après, la chirurgie a sa place, mais c'est à des stades un peu quand même avancés.
En Côte d'Ivoire, les malades préfèrent les guérisseurs traditionnels, encore appelés tradipraticiens. Ils le justifient par le coût élevé des produits pharmaceutiques.
Mais vous savez, les hémorroïdes, d'ailleurs, tout le temps, les hémorroïdes, sauf que si ça ne se manifeste pas. Depuis mon enfance, j'ai été soigné avec les plantes. C'est mon papa d'abord. Et puis, je pense qu'avec les plantes, il n'y a pas d'effet secondaire.
Je dis ici que les plantes ont des effets vraiment escomptés sur la population. Pas de produits chimiques, c'est uniquement la bio, uniquement à partir des plantes. Donc la population se réfère beaucoup à la plante, au naturothérapeute, parce que ici nous avons un coût qui est abordable.
Madame Mianzan Béatrice, âgée de 64 ans, après avoir essayé la médecine moderne sans succès, elle s'est retournée vers la médecine traditionnelle où elle trouve satisfaction.
Je suis malade, je suis venue voir Dr Yao. Et puis, mes yeux flou, coco, tout cela. Il m'a donné un médicament, il a soigné. Dans 2 jours, là, ça va. Comme je suis partie à Abidjan, ça ne va pas. Maintenant, je suis venue à côté de lui pour venir voir. Ça, il m'a donné un médicament.
L'hémorroïde, ou encore appelé coco en Côte d'Ivoire, est indexé comme la base de tous les problèmes sexuels des hommes et des femmes dans ce pays. Selon Dr Touré Draman, nul n'est à l'abri de l'hémorroïde. Narita Namasté à Abidjan, VOA Afrique.
Dans Washington Forum ce jeudi, les 100 premiers jours de Donald Trump à la Maison-Blanche, l'heure d'un premier bilan avec des promesses de campagne ambitieuses, des dossiers syriens, coréens à l'immigration, en passant par la construction du mur avec le Mexique, ou encore le délicat démantèlement de l'Obamacare et une réduction sévère de l'aide internationale. Quelles sont les promesses déjà réalisées? Quelle place pour l'Afrique dans ces 100 premiers jours? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de voaafrique.com et rendez-vous ce jeudi à 20h, temps universel, avec Tatiana Mosso et ses invités.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au programme International Music, Comedy et Country Music. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écoutez de la bonne musique et partagez vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h, temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le monde. monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.